c'est vrai qu'il était un peu tard. Pas le temps de te voir entre la brume et le brouillard. Tes rues étaient désertes, mais déjà je sentais à moi qu'ici j'y serais bien et que j'y trouverais mon toit. J'ai posé ma bagnole sur la place Jean Jaurès, comme tout un symbole sur ces terres de noblesse. Je m'y suis baladé suivant les traces de la Pérouse, en naviguant sagement pas comme galop à Santa Cruz. Quand j'aperçus loin là-bas des silhouettes dansant sur la terrasse de l'audience, ambiance y était pétillante. Je m'y suis laissé embarquer, j'y ai rencontré des amis. De verre en verre on a tchatché jusqu'au bout de la nuit. Adi ma ville, toi qui m'as adopté au début des années 2000, mes valises j'ai posé. Adi ma ville, non loin d'où je suis né, tu as mis droit dans le mille, mon cœur tu as touché. Adi ma ville, toi qui m'as adopté au début des années 2000, mes valises j'ai posé. Adi ma ville, non loin d'où je suis né, tu as mis droit dans le mille, mon cœur tu as touché. Et quand il revient le printemps dans les allées de Rochegude, on y voit les passants jouissant de toute plénitude. Le stress évacué de leur semaine surchargée, le temps est bienvenu de pouvoir enfin profiter. On peut y avoir le vertige mais en regardant vers le ciel, au pied de la grande Cécile, non loin du marché Castelbien. Elle surplombe la ville et veille sur ses musiciens, les garçons et les filles, des plus petits aux plus anciens. Mon cœur, tu as touché.
Bonjour, chers amis. Pascal et moi espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et nous vous invitons à vous joindre à nous pour nous promener dans cette jolie ville d'Albi. Albi. Albi existe déjà avant l'arrivée des Romains en 120 avant Jésus-Christ. Elle a été fondée par Galatée en 1300 avant Jésus-Christ. C'est une ville ancienne. Alors, on va suivre un petit peu la chronologie de ce qui se passe à Albi. Alors, en 418, arrivent les Visigoths. Les Visigoths, ils déferlent partout hein, sur l'Europe. Ils resteront un siècle jusqu'à l'arrivée des Francs en 507. Donc, Louis était arrivé en 492. Hein. 730. À 730, les Sarrasins envahissent la ville. Après que Charles Martel les ait arrêtés à Poitiers en 732, son fils, Pépin le Bref, occupe la ville en 765. Albi est rattachée au royaume de France en 843. Plusieurs siècles de quiétude vont suivre, hein, mais les 12e et 13e siècles vont être particulièrement sanglants. Ceux qui se nommeront les Cathares se revendiquent d'un mouvement chrétien qui conteste l'Église romaine et sa hiérarchie au prétexte que les idéaux du Christ ne sont pas respectés. Ils prônent la pauvreté, le travail manuel pour vivre et se considéreront les seuls vrais disciples des apôtres. Ils sont pour l'Église catholique des hérétiques. Hein, attention, hein. Les Cathares vont être victimes d'une très violente répression de la part de la très sainte Église catholique romaine qui mènera contre eux une croisade connue sous le nom de croisade des Albigeois. Tout le monde se souvient de ça. Albi est un archevêché et les évêques inquisiteurs sont aussi de puissants seigneurs. C'est à cette époque que sont construits la cathédrale Sainte-Cécile et le château fortifié. Au XIVe siècle, on érige des murailles qui ceinturent la ville. Nous n'en avons pas fini avec les guerres de religion. Au XVIe siècle, la réforme menée par Calvin s'implante dans le midi de la France. Des villes comme Albi ou Montauban sont, peut-on dire, touchées par ce nouveau mouvement protestataire dirigé contre l'Église catholique, à nouveau, et ses excès. Ce n'est pas du goût de Catherine de Médicis, la régente, qui nomme son cousin Laurent Sozzi pour défendre la ville contre les protestants. Et fait méconnu, le 5 octobre 1572, c'est peu de temps après la Saint-Barthélemy à Paris, les protestants sont victimes d'un massacre à Albi. On a beaucoup moins parlé que de la Saint-Barthélemy parce qu'il y a de Coligny, il y a des personnages célèbres à Paris. Bon, mais voilà. Et pour que ce XVIe siècle reste gravé dans les mémoires, en 1581, la peste s'abat sur la ville. Bon, des épidémies de peste, il y en a eu beaucoup, mais là, successivement, c'est un siècle très compliqué pour Albi et les Albigeois. La situation politique se stabilise jusqu'à la Révolution française, et suite à la départementalisation, c'est Castres qui est choisi comme chef-lieu du nouveau département du Tarn. Mais au bout de 7 ans, Albi devient la préfecture. C'est vrai qu'Albi, c'est plus important quand même que Castres. Alors, de nombreux bâtiments appartenant à l'Église deviennent des bâtiments administratifs. La Révolution bouleverse un petit peu l'ordre établi. À côté de la cathédrale, le palais de la Barbie, ancien palais des archevêques d'Albi, qui domine le Tarn, abrite le merveilleux musée Toulouse-Lautrec. En 1864, c'est l'arrivée du chemin de fer. Et il y a toujours deux gares aujourd'hui. Il y a deux gares à Albi qui desservent entre autres Toulouse, hein, bien sûr, et Brive-la-Gaillarde. Déjà à l'époque, on peut aller à Brive-la-Gaillarde. Depuis le 19e siècle, Albi est renommée pour sa verrerie et sa chapellerie. Si vous voulez avoir un beau chapeau, il y avait une chanson, je me suis payé un beau chapeau.
Oui, chapeau de Mireille.
Aujourd'hui, Albi, préfecture du Tarn, est toujours siège d'un archevêché, compte 50 000 habitants. La ville est partagée entre la ville médiévale, avec ses rues étroites, ses vieilles maisons à colombages et encorbellement, et la nouvelle ville, avec ses grandes places et ses promenades ombragées. Nous sommes, Pascal et moi, près du palais de la Berbie, à 170 mètres d'altitude, et nous dominons le Tarn. La vue est magnifique. Le Tarn est le troisième plus important affluent de la Garonne, après la Dordogne et le Lot. Et sur le Tarn, nous voyons le pont vieux du Xe siècle et le pont neuf de 1868. Il est plutôt neuf, mais... Pascal, puisque nous sommes au pied de la cathédrale Sainte-Cécile, entrons.
Oui.
C'est une forteresse, hein, autant qu'une église. Elle est construite en briques. C'est vrai que là, on est...
Comme Toulouse.
Oui. En briques que l'on retrouve partout, en Gascogne et en Languedoc. Regardez sous la voûte et les murs des chapelles. Toute une imagerie sacrée et une immense fresque du jugement dernier. On peut admirer aussi de magnifiques statues polychromes représentant les principaux personnages bibliques. Nous voici à nouveau sur le parvis. C'est vraiment très beau, n'est-ce pas, Pascal ?
Absolument.
Ah, ouais. Ah, si on allait déjeuner avant d'arpenter les rues piétonnes.
Allons donc déjeuner. Que me proposez-vous ?
Bah regardez, ici, on sert du foie gras.
Du sud-ouest. Hein. Sud-ouest.
Du cassoulet.
Ouais, donc on est pas là du lance.
Et des Jeannots d'Albi. Alors,
je sais parce que c'est ça.
Alors, les Jeannots, ce sont des biscuits pochés avec de l'anis, avec comme vin du Gaillac. C'est pas très loin d'ici, hein, Gaillac.
Oh non, non, c'est juste.
Allez,
on mange. Allez, on mange pendant la petite pause musicale dédiée à Toulouse-Lautrec, forcément.
Ah oui.
De nuit à Paris, pleine d'art et de charme, un spectre entre la gloire et l'alarme. Bar, cabaret, des maisons closes, des pinceaux leur inspiration éclatante explose. Les ombres de la vie, tu les as captées, montrant les contrastes souvent oubliés. Chaque trait, une vérité que nul ne voyait. Tu peignais des âmes que ton cœur effleurait. Oh Toulouse, enfant de Montmartre, un lieu où le bonheur se fait éparse. Tu peignais la vie derrière le rideau, entre bordels, chansons et flambeaux, dans les regards des danseurs, dans les couleurs de la ville. Vivait ton cœur vibrant fragile, les visages marqués par des douleurs sans fin. Tu peignais leur vie, leur souffrance, leur chagrin. La vérité cachée sous un éclat brillant, un miroir d'âme, un balai déchirant. Les visages marqués par des douleurs sans fin, tu peignais leur vie, leur souffrance, leur chagrin. La vérité cachée sous un éclat brillant, un miroir d'âme, un balai déchirant. Les cabarets brillaient, la vie résonnait, mais au fond de toi, une tristesse chantait. Oh Toulouse, enfant de Montmartre, un lieu bonheur se fait éparse. Tu peignais la vie derrière le rideau, entre bordels, chansons et flambeaux. Tu nous as appris à voir l'invisible, les douleurs de la vie si terrible. Un artiste pour toujours, un esprit mortel. Tes toiles sont des fenêtres vers l'éternel. Leur visage gris chuchote ton nom, tu restes en Paris. Ce qui demeure, c'est ton art malgré le temps, et ton nom Toulouse vit éternellement. Oh Toulouse, peintre de solitude, tu as dévoilé Montmartre dans son âpretude. L'absinthe et le chagrin t'ont consumé, mais ton cœur bat dans les rues de Paris pour l'éternité.
Pascal.
Oui, Michel.
Après ce bon déjeuner, hein,
oui,
je vous propose.
C'était bon, les Jeannot.
Ah oui, c'est bon, hein, je ne connaissais pas.
Hein. Oh, bah, on connaît pas.
Bon, j'ai jamais de Jeannot avant. Mais... Bon, alors après ce bon déjeuner, je vous propose de parcourir les rues piétonnes de la vieille ville et de revenir en fin d'après-midi au musée Toulouse-Lautrec, au palais de la Berbie. On fait comme ça ?
On fait comme ça.
On fait comme ça. Alors, c'est une visite incontournable, hein, le joyau de la ville d'Albi. C'est pour ça que ce musée, on le garde pour la fin. Hein. Alors, nous arrivons place du Cloître, devant l'église Saint-Salvi. C'est une église du XIe siècle, mais d'importants travaux ont été réalisés au XIIIe et XIVe siècle. Et ceci donne cette architecture mêlant le roman et le gothique. C'est souvent hein, qu'on voit des édifices comme ça, où ça démarre en roman, ça continue en gothique. C'est plusieurs siècles de travaux. Et se dresse l'originale silhouette de son campanile, et un cloître du XIIIe siècle prolonge l'église. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'ajouts hein, comme ça, au fur et à mesure. Ça donne quand même quelque chose qui a beaucoup de charme. Par la rue Mariès, nous arrivons place de la Préfecture. La Préfecture, grand bâtiment en briques roses, hein, bien sûr, héros, abrite aussi la chambre de commerce. Par la rue Timbal, nous atteignons la place du Vigan, très belle place. C'est le lien entre la vieille ville où nous nous trouvons et la nouvelle ville de l'autre côté de la place. Traversons. Vous voyez, Pascal, le décor est totalement différent, mais ces belles avenues ombragées ont beaucoup de charme et appellent à une vie citadine paisible. C'est vrai que ça semble paisible ici.
Il y a une quiétude.
Il y a une quiétude. On est en ville, mais tranquille. Hein, c'est vrai. Alors, on peut voir désormais dans le flot discontinu des voitures, il y a quand même des voitures, des autobus. Pourquoi on parle des autobus ? Parce que Albibus, hein, la compagnie, compte 16 lignes. Et pour une petite ville, je trouve que c'est quand même important. Ben oui. Et puis, les cars régionaux, il y a 14 lignes. Alors, ben c'est rassurant de voir que le réseau de transport en commun est relativement dense. Hein. Ce n'est pas partout comme ça. Hein. Ouais, c'est bien. Si vous n'avez pas de voiture,
il y a le bus.
Hein. Alors, revenons sur nos pas et traversons le joli jardin national pour sortir... Place La Pérouse et admirons la magnifique statue de La Pérouse. Alors, statue de La Pérouse à Albi. La Pérouse, très grand capitaine, un homme de mer. On est loin de la mer pourtant. Hein, Albi est fort éloigné de la mer. Pourtant, Jean-François de Gallo, comte de La Pérouse, enfant d'une famille noble d'Albi, né au château de Gros, à quelques lieues d'Albi, est attiré par la mer. C'est intéressant, un jeune comme ça, qui ne connaît pas la mer. Il a lu des livres, il est très attiré. Alors très jeune, il veut devenir marin et s'engage dans la marine royale en 1756 à 15 ans. Il participe à la guerre de 7 ans et devient capitaine de vaisseau à 39 ans. Alors, pour mémoire, la guerre de 7 ans, c'est le renversement des alliances. La France va s'allier à l'Autriche contre la Russie et l'Angleterre. Voilà, c'est ça. Donc, cette guerre de 7 ans, il y a toujours eu beaucoup de guerres. Alors, il combat aussi la flotte britannique durant la guerre d'indépendance américaine pour ensuite mener en 1782 une expédition dans la baie d'Hudson. C'est vrai qu'on cherche toujours à cette époque le passage du Nord-Ouest. Hein. Maintenant, on en parle beaucoup avec Trump. Ouais, bon. Mais à l'époque, il n'y a pas encore de Trumpiste. Hein. Alors, en plus d'être un navigateur hors pair, c'est un humaniste. Hein. C'est un homme qui a beaucoup de connaissances, du savoir. Alors, à cette époque... James Cook, c'est un Anglais, hein, ouais, comme son nom l'indique, hein, vient de faire le tour du monde. Ça, c'est très important, parce qu'on est à une époque où on essaye de découvrir toujours de nouvelles terres. Alors, Louis XVI confie à La Pérouse, à son tour, la charge de faire, lui aussi, une circumnavigation. De nombreuses terres restent à découvrir. Il quitte Brest en 1785, à bord de l'Astrolabe. Il y a une seconde frégate, la Boussole, qui fait partie de l'expédition. Malheureusement, en 1788, ils sont partis depuis 3 ans, hein, une violente tempête fait sombrer les deux vaisseaux alors qu'ils ont quitté l'Australie et se dirigent vers les îles Salomon, c'est au nord-est de l'Australie, après avoir doublé les Nouvelles-Hébrides. Aujourd'hui, les Nouvelles-Hébrides, c'est Vanuatu. Aucune trace des deux navires. Pourtant, on les cherche, hein. Jusqu'à 1828, où Dupont d'Urville, celui qui va découvrir l'Antarctique, hein, pour les Français, va découvrir l'épave de l'Astrolabe. Et il faudra attendre 1964 pour que, par hasard, un plongeur néo-zélandais retrouve l'épave de la Boussole. Donc les navires ont fini par être retrouvés. On n'a pas retrouvé le corps de La Pérouse. Alors il y a ici à Albi un très beau musée La Pérouse. Hein. Il y a également un lycée La Pérouse, où Jean Jaurès a enseigné et Georges Pompidou a été élève. La Pérouse. Bah, Jean Jaurès, il est du Tarn. Hein. C'est Carmo, hein, je crois.
Carmo.
C'est les mines. Mmh. Hein, c'est... Alors, donc, alors c'était avant un ancien collège de jésuites, hein, ce lycée où ils ont enseigné. Jaurès n'enseignait pas dans un lycée de jésuites, hein, du tout. Mais ah, ça avait été un. Bah, tous les établissements d'enseignement étaient tenus par des religieux. Hein. Alors regardez, Pascal, aux 12 rue d'Anguès, où nous, nous trouvons cette magnifique maison à colombage. C'est vrai qu'il y a de très belles maisons du Moyen-Âge dans ce vieil Albi. Nous sommes maintenant rue de la Grand-Côte, et au 8, nous pouvons admirer cette belle maison à encorbellement. C'est vrai qu'on n'en trouve pas partout. Et à nouveau, au 16 rue Saint-Julien, une magnifique demeure du Moyen-Âge. Elles sont vraiment très très belles, ces vieilles
bien
maisons.
Bien conservées.
Puis la culture a toujours tenu une place importante à Albi. Nous sommes à présent devant le théâtre municipal rue Saint-Antoine. Alors, c'est un beau bâtiment, Alors, pourrait-on dire avec une avant-scène couleur craie et puis en arrière-plan de couleur ocre sur les deux ailes de ce bel ensemble. C'est assez curieux puisque vous avez vu devant nous, c'est blanc.
Oui, et derrière.
Puis, derrière, c'est...
Les briques.
C'est briques. Pascal, nous voici revenus au palais de la Berbie. Ah,
pourtant.
Et nous allons terminer notre promenade par la visite du musée Toulouse-Lautrec. Comme on l'avait dit. Alors avant d'être un musée, le palais de la Berbie était la résidence des archevêques d'Albi. Très puissant, on en a parlé ce matin. La collection est unique, il y a ici plus de 500 toiles, affiches, dessins et lithographies d'Henri de Toulouse-Lautrec. Et cerise sur le gâteau, des tableaux de Degas, très amis avec Toulouse-Lautrec, Bonnard, Matisse, Vlaminck, Utriot et sa mère Suzanne Valadon. Suzanne Valadon, elle s'appelait Marie Clémentine. Elle sera a priori un temps la maîtresse de Toulouse-Lautrec qui lui fera changer son prénom. De Marie-Clémentine Valadon, elle devient Suzanne Valadon. Elle est connue sous ce nom.
Pseudonyme.
Et c'était pour l'époque rare d'avoir une femme qui puisse être aussi connue dans la peinture. Son fils aussi a été très connu. Alors, Toulouse-Lautrec, il naît en 1864 à Albi de parents cousins germains. Et oui, on se marie entre cousins très souvent pour ne pas disperser la fortune familiale. Ça pose d'autres problèmes, hein, la consanguinité. La preuve, c'est que, voilà, Toulouse-Lautrec, il va naître infirme. Ses parents sont les descendants des vicomtes de Lautrec, noblesse du sud-ouest. Il est porteur d'une maladie génétique qui l'empêche de grandir normalement. Ses jambes sont excessivement courtes. Il mesurera seulement 1m52. Mais serait-il devenu Toulouse-Lautrec sans ce handicap? Je ne sais pas. Est-ce que ça ne l'a pas...
Peut-être glorifié.
Peut-être.
Ouais. Pourquoi pas Montmartre.
Ses parents se séparent bientôt. Il est confié à sa mère. Il garde néanmoins d'excellents contacts avec son père. À 14 ans, en vacances dans l'Aude, avec sa mère dans une demeure familiale, c'est vrai que ces gens-là ont des biens un petit peu partout, il dessine déjà des chevaux et des paysans au balcon. Vous avez vu, on est passé devant ces dessins. Il a 14 ans. Hein. Et sa vocation est née. Il part à Paris après son baccalauréat à Toulouse et s'installe à Montmartre. C'est la bohème, c'est celle chantée par Charles Aznavour, c'est la bohème. Il fréquente les maisons closes, hein. Tout le monde les fréquente à l'époque.
Hein. Oui, c'est très tendance.
C'est très tendance. Hein. Bon, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Alors, il finit par s'installer, c'est ça qui est assez amusant. Il s'installe dans une maison close où il va avoir ses habitudes, vivre. C'est l'époque du Moulin de la Galette, il peint La Goulue et Valentin le Désossé, et aussi les pensionnaires de la maison accueillante, hein,
oui.
Où il a...
ses entrées.
Alors, bon ben, c'est vrai, il est alcoolique. Ben, en fait, il aime ajouter du cognac à l'absinthe, mais du sud-ouest, hein. À l'absinthe...
Il aurait pu mettre de l'armagnac.
Il aurait pu mettre de l'armagnac, parce que le Gers, c'est pas loin,
et
le cognac... C'est plus au nord. Mais quand on est artiste, on ne boit jamais d'eau. Je crois que Barbara l'a chanté, ça. Pas boire de l'eau. Comment voulez-vous Vous pensez que quand j'arrive ici, j'ai bu de l'eau?
Non, bien non. En tant qu'artiste, forcément, Michel.
Alors, il attrape la syphilis, bon, puis la tuberculose. Et le 15 août, il est victime d'une... crise d'apoplexie, on appelait ça comme ça avant, hein. Maintenant on dirait peut-être un AVC, et il meurt le 9 septembre, je crois que c'était 1901, je crois. Nous perdons ce jour-là l'un des plus grands peintres, hein, que la France ait engendré. Toulouse-Lautrec, ouais, c'est vrai que c'est un peintre qui m'a beaucoup impressionné, puis sa vie, je ne sais pas, c'est quelque chose... Pascal, quelle émotion, hein, pour moi, Toulouse-Lautrec. Ouais. Ben oui. Alors, nous quittons Albi avec des images plein la tête. Hein.
Absolument.
C'était
et plein de couleurs.
Oui, une belle journée Alors à bientôt, chers amis.
C'est toujours la saison des belles choses qu'on n'oublie pas, de Saint-Sulpice jusqu'au Cigala. Terre de France, de mon enfance, il y a aussi du rire et des chansons. Un bon gaillard trinquant, buvant, c'est un vrai paradis. Aux portes du midi, Albi, Gaïa, tout Mazamé, c'est le pays où je suis né. Chantons le Tarnami qui berce notre vie. Les murs de Corda réellement, chantons le Tarn sur tous les tons. Bonjour le Tarn et toute la région. Castres-la-Vore, c'est toujours la saison des belles choses qu'on n'oublie pas, de Saint-Sulpice jusqu'au Cigala. Terre de France, de mon enfance, il y a aussi du rire et des chansons. Un bon gaillard printemps buvant, l'histoire y a grandi. Toulouse, Lautrec aussi, la Pérouse et tous ses amis n'ont jamais oublié Albi. Porte voilà le Tarn, je l'aime bien. Bonjour le Tarn et toute la région. Castres-la-Vore, c'est toujours la saison des belles choses qu'on n'oublie pas, de Saint-Sulpice jusqu'au Cigala. Terre de France, de mon enfance, il y a aussi du rire et des chansons. Un bon gaillard trinquant, buvant. Bonjour le Tarn et toute la région. Castres-la-Vore, c'est toujours la saison des belles choses qu'on n'oublie pas, de Saint-Sulpice jusqu'au Cigala. Terre de France, de mon enfance, il y a aussi du rire et des chansons. Un bon gaillard